Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne Jean-Romain Semokolo, il est journaliste indépendant. Bonjour Jean-Romain Semokolo.
Bonjour Dimaté, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
En ligne également, John Ngumboa, il est journaliste et il est directeur des informations d'antenne à une télévision privée qui émet de Kinshasa. Bonjour John Ngumboa.
Bonjour Guy Matin, bonjour à tous les collaborateurs et aux auditeurs de Radio Capi.
Et aussi en ligne, lui depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la RDC. Bonjour Romain Chanson.
Oui, bonjour Guy Matin, bonjour aux participants à ce débat et bonjour aux auditeurs.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Jean-Romain Semokolo, journaliste indépendant. John Ngumboa, journaliste, il est directeur des informations d'antenne à une télévision privée qui émet de Kinshasa. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir accord migratoire entre la RDC et les États-Unis. Clôture du 9e round des négociations en Suisse, le gouvernement congolais et l'AFCM23 s'accordent sur la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Enfin, débat sur la réforme constitutionnelle en RDC. Mais nous allons commencer par écouter ce morceau.
Safari, oh, safari, umeumiza moyo. Wende, wende, ndugu. Isha masiku, kwa nguvu ya Mola. Tutaonana tena. Safari, 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 umeumiza moyo. Wende, wende, ndugu. Kisha masiku kwangu.
Wa Voilà, c'était Safari avec les Kuruyaka, Papa Wemba. Comme vous le savez, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Papa Wemba. Nous allons donc mettre un commentaire au sujet de cette actualité sur la commémoration du 10e anniversaire de la mort de Chungu Wemba Dio, connu sous le nom de Papa Wemba. En effet, le vendredi 24 avril 2026, la République démocratique du Congo commémore le 10e anniversaire de la mort de l'une de ses icônes culturelles, décédée le 24 avril 2016 en plein concert à Abidjan en Côte d'Ivoire. 10 ans après le décès de l'artiste musicien Papa Wemba né Jules Chungu Wemba Dio Pene Kikumba, ses proches et ses fans éprouvent encore une douleur vive. Selon ses proches, la dernière semaine de la vie de Papa Wemba a été très intense bien avant son départ pour Abidjan. Dès le 5 avril 2016, l'orchestre Viva la Musica répétait intensivement en vue des 6 productions prévues en Côte d'Ivoire, 2 à Abidjan, 2 à Korogo et 2 à Yamoussoukro. Le 19 avril, une ultime répétition générale s'était tenue à Kinshasa. Le lendemain, le groupe s'était rassemblé pour un stage bloqué avant de voyager le 12 avril vers Abidjan. Le premier spectacle donné dans le cadre du festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Femoua, s'annonçait comme une nouvelle démonstration du talent du chef du village Molokai. Le dimanche 24 avril, vers 4h du matin, Papa Wemba entamait sa prestation devant un public conquis. Après une 30aine de minutes de concert, l'icône de la rumba s'est soudainement effondrée sur scène. Les instruments se sont tus, le public a retenu son souffle avant que l'artiste ne soit évacué sur une civière sous les applaudissements mêlés de larmes et d'inquiétude. Quelques instants plus tard, la nouvelle tombée, Jules Chungu Wemba Dio Pene Kikumba dit Papa Wemba venait de quitter la terre des hommes. Jean Romans Mokolo, 10 ans après, quels souvenirs vous continuez à garder de Papa Wemba?
Oui, je garde en tout cas de Chungu Wemba Dio, Papa Wemba, souvenir en tout cas d'un grand musicien congolais et africain qui a bercé notre jeunesse. Nous avons connu sa musique quand on était tout petit. Et avant, on ne l'a pas vu, mais j'ai eu l'occasion de le voir dans un concert en Bandata quand j'étais encore petit, lors d'une campagne électorale dans les années 80. C'était un grand musicien qui a bercé notre jeunesse. Nous avons eu l'occasion, en tout cas, d'écouter sa musique et d'être accompagné tout au long de notre vie avec sa musique. Et c'était vraiment un grand homme, un grand monsieur qui est parti. Et comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Il continue en tout cas à vivre à travers ses œuvres, à travers ses chansons. Et j'ai eu même aussi certains témoignages, par exemple, du professeur Jacques Jolie Sengekili, qui est rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a dit que chaque fois que Papa Wemba le voyait, par exemple, dans son concert, il disait non, rentre au campus, t'occuper de tes études. Donc, il était très attaché aussi à la culture, très attaché aussi aux études, parce que il a encouragé de nombreux jeunes de Matongé de pouvoir aller étudier plutôt que de continuer à les suivre dans le concert. Donc, il reste en tout cas une grande œuvre qui va continuer en tout cas à nous bercer de génération en génération.
Merci. John Gomboa, après la disparition d'un leader, le constat est que son orchestre ne survit pas et même son œuvre a tendance à disparaître. C'est le cas de Franco Lombo Macchiadi, Tabouley et King Kester Emenea, pour ne citer que cela. Comment, à votre avis, la nouvelle génération de musiciens devrait pérenniser l'œuvre de Papa Wemba?
Bon, l'œuvre de Papa Wemba, pas uniquement, mais je veux dire que Papa Wemba aujourd'hui a permis d'écrire en lettres de noblesse la rumba congolaise qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine de l'UNESCO. En fait, la problématique qui se pose, à mon sens, c'est celle de l'industrialisation de la musique congolaise. En fait, c'est un peu un des aspects de la question que vous posez. À chaque fois que le leader d'une formation musicale disparaît, eh bien, les restes disparaissent aussi. Et en fait, c'est un peu comme les phénomènes partis politiques dans notre pays qui sont liés aux individus. Et la plupart du temps, les orchestres ne sont pas des entités administrativement reconnus comme tels, c'est-à-dire qui ont des papiers, qui ont des statuts. Et voilà pourquoi souvent il y a des problèmes de succession qui se posent, des conflits avec la famille, et puis les artistes qui sont restés. Je crois qu'il va falloir réglementer la musique congolaise, la rumba principalement, en organisant non seulement les orchestres, mais aussi du point de vue du fonctionnement interne, en structurant de manière à ce que ces orchestres soient des entreprises avec des salariés et des revenus clairement établis, y compris les différentes rédévances, qui peuvent continuer de travailler, et je veux dire les différents artistes, les chanteurs, musiciens et autres, qui peuvent continuer de travailler, même s'il arrivait, il n'arrivera toujours que des leaders disparaissent. Et je crois que la génération d'aujourd'hui n'a peut-être pas tiré les bons grands, parce que jusque-là, c'est à peu près le même modèle qui est reproduit. Évidemment, pour les besoins de la Starmania, on met toujours en avant-plan un artiste, et très souvent, l'orchestre porte le nom de l'artiste pour faire plus court. Mais je ne pense pas que ce serait forcément une manière de pérenniser la musique, la rumba.
Merci. Merci, Romain Chanson. Chungu Wemba Dio Papa Wemba, c'est cet artiste musicien qui savait jongler avec sa voix. Un artiste de renommée internationale qui a su imposer la sape dans la musique. 10 ans après sa disparition, quelle image vous gardez de lui?
Un petit peu moins à ma génération, donc il a fallu que je me replonge dans les archives. Et ce qui est formidable, je trouve, c'est que Papa Wemba, il s'inquiétait en 2014 d'un effacement de la culture congolaise, de la culture musicale au profit de la musique nigérienne ou ivoirienne. Mais aujourd'hui, on voit que ce sont les Congolais qui dominent la culture musicale, même en France. Les Congolais dominent la scène musicale, et c'est aussi l'héritage de Papa Wemba. On a des Théodora, on a des Gims, on a des Tiakola, et ce sont eux aujourd'hui qui sont récompensés et donc qui sont les fiers représentants de la musique congolaise, et ça c'est important. Donc l'héritage de Papa Wemba est là. Et je signalerai juste pour finir que ce week-end, donc enfin ce soir même, il y a un grand concert au Zénith de Paris du groupe Zaiko Langa Langa, qui était le premier groupe de Papa Wemba. Donc sa mémoire, j'en suis sûr, sera honorée ce soir au Zénith de Paris.
Merci. On prend une petite pause en écoutant l'une des classiques de Papa Wemba intitulée Maman, et on se retrouve juste après.
Mama, so you're gonna keep on loving me. Belen Asen il va chalo ministre d'éducation. Belen va patre va prisonnier soit va kanga. Belen koutou moutou ma bea salisse. Lelo na kanisio mingi mama. Bonjour anniversaire nanga e komine. Invite ba folia ba kovera masanga. Yo koutou artisana boyo salite. E pa yo salisa kyo koutani na okanyoye. Jindela mba marta dozo ata pololo. E tembo nanga e koza la mitifiye kwa de.
C'était Maman, cette belle chanson de Papa Wemba à travers laquelle il rend hommage à sa chère maman. Aurait bien la côté cette semaine, 15 personnes sont arrivées vendredi 17 avril dans la capitale congolaise, marquant les débuts de la phase opérationnelle du dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué publié le 17 avril. Selon les autorités, ces premiers contingents ouvrent la voie à l'application concrète de cet accord inscrit dans un cadre de coopération internationale. Dans ces communiqués, le gouvernement insiste sur le fait que ce dispositif est strictement temporaire. Il ne s'agit ni d'une installation durable, ni d'une relocalisation permanente sur le territoire congolais. Les autorités précisent que l'ensemble des coûts liés à l'accueil et à la prise en charge des migrants est supporté par les États-Unis. Pourtant, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a affirmé lundi 20 avril avoir été sollicitée par le gouvernement congolais afin de fournir une assistance humanitaire à 15 migrants en provenance des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis cherchent à envoyer en Afrique subsaharienne plus d'un millier d'Afghans aujourd'hui coincés au Qatar et ayant pour la plupart travaillé avec l'armée américaine pendant la guerre en Afghanistan. Selon RFI, qui cite certaines sources, des discussions ont été engagées avec plusieurs pays du continent ces derniers mois. Parmi ces pays figure la RDC. Romain Chanson, vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique, vous êtes chargé de la RDC. Vous avez souhaité nous parler justement de cet accord migratoire entre la RDC et les États-Unis. On vous écoute.
Oui, j'ai voulu choisir ce sujet parce que c'est aujourd'hui que ces 15 migrants sud-américains doivent décider si oui ou non ils veulent rester en RDC ou repartir chez eux, donc être une nouvelle fois expulsés. S'ils décident de partir, eh bien, il y aura une période de transition où on essaiera d'organiser leur départ dans un pays. Je trouve que c'est un sujet intéressant à la fin parce que il y a la grande opacité autour de ce contrat. Qu'est-ce que la RDC obtient en échange? Et puis, ça questionne sur l'humanité d'une telle démarche. Que viennent faire des migrants sud-américains en RDC pour qu'ensuite on les revire chez eux? Si on faisait ça, je ne sais pas ce qu'en pense l'opinion publique congolaise, mais si la France faisait ça, des migrants congolais, qu'on les expulsait au Vietnam pour finalement les re-expulser en RDC, je suppose que le gouvernement congolais serait en colère et indigné. Et là, c'est ce qui se passe avec ces pauvres migrants sud-américains qui ont 20 ou 25 ans, aucun moyen de subvenir à leurs besoins en RDC, et dont on imagine mal qu'ils pourraient demain s'installer, construire une maison, ouvrir un compte en banque et trouver un travail. Donc finalement, la RDC sert de repoussoir à ces gens. On leur dit, regardez, vous n'avez aucun avenir ici, acceptez de rentrer chez vous et de faire face au risque que cela incombe de rentrer chez soi dans des pays où ils sont peut-être en danger.
Romain Chanson, depuis que cette affaire a éclaté, le gouvernement congolais n'a presque pas communiqué là-dessus. Vous l'avez dit, hein, il y a presque une sorte d'opacité. Ce silence du gouvernement pourrait-il refléter quoi, à votre avis? Un certain embarras?
Un embarras, en effet, parce qu'il y a sûrement de l'argent qui a été donné en contrepartie. C'est ce qu'on voit dans d'autres pays, Cameroun, Eswatini, Rwanda, il y a beaucoup de pays qui acceptent ces deals. Mais cet argent sert à quoi? Est-ce que c'est de l'argent qui est reversé dans les finances publiques? Est-ce que c'est de l'argent qui va dans les poches de certains? On aimerait savoir. Donc c'est ça, la grande discrétion du gouvernement interroge. Et c'est pas faute d'avoir essayé de les contacter, hein. On a contacté tous les ministères qui sont évidemment concernés par ce deal et personne ne veut parler. Et donc voilà, c'est embêtant, sachant que c'est un sujet qui est visible, ces migrants, ils sont à Kinshasa maintenant. Pourquoi, comment, on aimerait savoir.
Merci. John Ngomboa, vous êtes journaliste et vous êtes directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Ces migrants ont commencé à s'exprimer à travers certains médias, à travers un reportage des RFI que nous avons suivi. Certains d'entre eux s'inquiètent de la manière dont ils ont été amenés à Kinshasa. On n'a même pas cherché, selon eux, à avoir leurs avis. Et du coup, ça pose un problème du non-respect, n'est-ce pas, de leurs droits, John Ngomboa.
Moi, je voudrais d'abord constater que le fait que ces migrants s'expriment, ça veut dire que ce n'est pas des détenus. Parce que je pense que nous avons vu tous les photos et vidéos de ces migrants qui circulent tout à fait librement, qui accordent des interviews. Et donc, ils ne sont pas détenus en RDC, ce qui n'aurait pas peut-être été le cas là où ils étaient. Et ils n'allaient certainement pas avoir accès aux médias. Ah, donc ça, il faut quand même le constater. Deuxièmement, moi, je pense que la RDC n'a pas à demander à recevoir des migrants. Et le gouvernement a clairement expliqué dans quel contexte est-ce que ces migrants se trouvent sur les territoires nationaux. Ils ont pour vocation de retourner chez eux ou dans un autre pays qui voudrait bien le recevoir pour une durée plus ou moins longue. Donc, je crois que c'est un faux procès qu'on est en train de faire à la République démocratique du Congo. Il va voir si ce n'est pas le problème des États-Unis. Donc, la RDC, en tant que partenaire des États-Unis, a rendu un service à un partenaire. Et je crois que entre être dans une cellule de détention et être à l'air libre et accorder des interviews, ces migrants ont toujours le choix, quoi. Voilà.
Merci. Jean-Romain Semokolo, journaliste indépendant. La RDC n'est pas l'unique pays africain à avoir accepté, n'est-ce pas, de conclure ce deal avec les États-Unis. Ces pays africains comme la RDC, est-ce qu'ils avaient la possibilité de refuser de conclure cet accord avec les États-Unis? Et surtout, qu'il y a une totale opacité, hein, Romain Chanson à l'art élevé, il y a une totale opacité, n'est-ce pas, sur la contrepartie pour ces États qui ont accepté ce deal.
J'ai comme impression que c'était un dictat. Donc, la grande Amérique nous a imposé sa volonté de ne plus voir ses ressortissants sud-américains dans son territoire et les a renvoyés, déportés chez nous. Bon, comme la RDC est en deal avec les États-Unis d'Amérique, et comme la RDC compte en tout cas sur l'Amérique pour avoir un soutien, surtout dans la guerre qui se vit à l'est du pays, et surtout aussi dans peut-être deux mois après demain, il peut y avoir des tiraillements à interne ici, dans le cadre, par exemple, du projet de changement des constitutions. Donc le gouvernement congolais, je crois, n'avait pas d'autre choix que d'accepter une demande des États-Unis d'Amérique. Mais moi, je pense que ce n'est pas la RDC ou les pays africains qui ont accepté qui doivent être blâmés. Le pays qui doit être blâmé, c'est la Grande Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique financiers, les services de sécurité qui sont au point, qui pouvaient en tout cas assurer la sécurité, faire en sorte que ces personnes ne puissent pas constituer une menace pour son pays. Et puis, par exemple, les États-Unis pouvaient négocier avec le pays d'origine de ses ressortissants et obtenir, par exemple, une sécurisation de ces ressortissants-là. Et il faut retourner dans leur pays parce que moi, je me dis, entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine, en tout cas, c'est une toute petite distance. Et c'est fallait-il venir les amener ici en Afrique à des milliers de kilomètres pour pouvoir attendre à ce qu'on puisse les retourner dans leur pays d'origine. Moi, je trouve que l'Amérique et Donald Trump est en train, en tout cas, pratiquement de montrer vraiment qu'elle n'est plus respectueuse des droits de l'homme, des droits des personnes humaines, et que toutes les leçons qu'on nous donne, nous, aux pays africains, de respect des droits de l'homme, de respect de la dignité humaine, en tout cas, eux-mêmes, ils sont en train de les bafouer. Donc, c'est regrettable, en tout cas, qu'en plein 21e siècle, un pays de démocratie, un pays qui se réclame un pays de respect des droits de l'homme, puisse en tout cas pouvoir violer les droits de certains citoyens du monde et les déporter vers un pays qui n'est pas le leur et puis contre leur volonté. Moi, je trouve que c'est moralement insoutenable, en tout cas, sur le plan de l'éthique politique, je crois que ce n'est pas une bonne action. Mais espérons, comme l'a dit le gouvernement congolais, que bon, ces gens-là vont rester pendant un temps seulement et que leur gouvernement pourra en tout cas accepter de les recevoir comme ça. Vous savez, le malheur qui s'abat sur le Congo depuis 1996, avec la guerre de l'Afrique, elle a commencé avec l'arrivée massive de réfugiés rwandais. Et ça nous a causé les torts que ça nous a causé jusqu'à aujourd'hui. Nous n'arrivons pas, en tout cas, à pouvoir nous stabiliser par rapport à cette histoire. Bon, je sais que ceux qui viennent des États-Unis, c'est un petit nombre de gens. Ils ne pourront pas, en tout cas, constituer une menace pour notre pays.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, c'est vendredi 24 avril, c'est le 10e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Né Jules Chungu Wemba Dio Pene Kikumba, cet artiste multidimensionnel qui nous a quittés brusquement le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cet anniversaire, nous allons écouter un de ses classiques intitulé Chérie Maria. On écoute donc Chérie Maria. Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, c'est vendredi 24 avril, c'est le 10e anniversaire de la mort de Papa Wemba, né Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba. C'est un artiste multidimensionnel qui nous a quittés brusquement le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À l'occasion donc de cet anniversaire, nous allons écouter un de ses classiques intitulé Maria, Chérie Maria. On écoute donc Chérie Maria avec cette voix exceptionnelle de Papa Wemba et on revient juste après.
Et à mon soi, Gaboufato, il est top modèle.
Lela na komi pastan e panaya Bona zangi de mousolo Popo sani le temps passé Papa ti royonga ina mona Ponaya Oli wepe singa ta merci terre Chéri Maria Lela na komi pastan e panaya Oh mama Bona zangi de mousolo Au beau sani le temps passé, papa ti royonga ina mon afi, bonaya, oli wepe tula ta merci terra. Papa poti bayo batini ma pauvre malheureux, bobo la nazanga, elle a pani nyango, nazali na yango, oyo na koti kope sanaya. Wakolo bako kutanga na yo li susu na zela, ako chabi na nga na danje. Papa poti bayo batingi, papa malheureux, mubola
avant de s'accuser pour la calate, la posomba jamba, la yamanyo soba koma yamai. Mbaki malaupa, wapi mabizu. Polina ulondo he.
Ye pe a kozwa o, mi pa ya patu ma o. Ye pe a kozwa o, a trendy papa na Nelson. Si mo ma bina e, un jour a kozwa o, ba na moloka yo.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine en RDC. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la commémoration du 10e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Nous avons également analysé l'accord migratoire entre la RDC et les États-Unis. Participe à cette émission Jean-Romance Mokolo, il est journaliste indépendant. John Ngomba, il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la RDC. Le 9e round de négociations entre le gouvernement congolais et la CM23 s'est achevé vendredi 17 avril à Montreux en Suisse. 5 jours de discussions sous l'égide de plusieurs partenaires internationaux dont le Qatar, les États-Unis, la Suisse, l'Union africaine, les Togo avec la participation de la MONUSCO. Les deux parties se sont accordées sur plusieurs points, à savoir la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain d'un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu. Le gouvernement et l'AFCM23 se sont engagés à garantir un accès rapide, sûr et sans entrave à l'aide humanitaire, tout en insistant sur la nécessité d'éviter tout détournement ou instrumentalisation de l'assistance vitale destinée aux populations déplacées. Cependant, aucun accord n'a été trouvé sur un point clé, notamment la question judiciaire et l'accès humanitaire. Sur le plan judiciaire, le gouvernement congolais a refusé la demande de l'AFCM23 consacrée à la levée des condamnations à mort visant certains de ses membres, ainsi que l'abandon des poursuites contre d'autres. Si Kinshasa souhaite la réouverture de l'aéroport international de Goma, fermé il y a plus d'une année, les mouvements de l'AFCM23 redoutent une utilisation militaire de cette infrastructure stratégique. John Gomba, vous avez souhaité nous parler justement de la clôture du 9e sommet, du 9e round plutôt, des négociations en Suisse entre les gouvernements congolais et l'AFCM23. On vous écoute.
Oui, merci Guy Maté. En fait, ma conviction, c'est que Montreux était juste une partie des procès menteurs entre les deux parties. Le M23, AFCM23, voulait gagner du temps parce que ces mouvements rebelles perdaient pied sur les terrains militaires, et le gouvernement voulait démontrer à la communauté internationale que le M23, enfin l'AFCM23, est un partenaire des mauvaises foi. Et je pense que c'est là-dedans que nous sommes, parce que la mauvaise foi de la FCM23 a été créditée pendant que Montreux s'était né. La FCM23, aidée évidemment par la RDF, a pilonné les positions des FRDC dans les Fizi, notamment. Alors, c'est un poker menteur aussi au niveau des engagements. En fait, la FCM23 a toujours besoin d'une forme de reconnaissance légale, d'être considéré comme l'alter ego du gouvernement. Et lorsque Montreux a reconnu que il y aura des officiers du M23 au sein du mécanisme de vérification. Vous avez vu comment est-ce que cela a été considéré comme une victoire politique, les proches de l'AFC M23 et même Kigali, ils ont applaudi des deux mains. Ce qui cachait mal, au fait, leur stratégie d'être considérés comme l'égal du gouvernement afin d'arriver à mettre leur plan en jeu. En ce qui concerne les couloirs humanitaires, c'est aussi un poker menteur parce que si le M23 a accepté qu'il y ait ce corridor humanitaire, il a bloqué l'accès à l'aéroport de Goma, qui est stratégique lorsqu'il va falloir organiser l'assistance humanitaire, parce que par où est-ce que cette assistance viendrait si ce n'est pas par Goma. Et vous avez entendu par la suite les dernières communications de l'ACM23 qui dit que, mais en fait, l'ouverture de l'aéroport de Goma dépend de Kinshasa. En fait, c'est une sorte de chantage qui dit que si vous ne donnez pas nos prisonniers, eh bien, nous n'allons pas ouvrir l'aéroport. Mais cette question des prisonniers est aussi problématique, parce que on doit clairement comprendre les tenants et les aboutissants de cet acte qui paraît anodin quelque part. En vrai, c'est un point capital de la stratégie du M23. En fait, qui sont ces prisonniers? De deux choses l'une, si ces prisonniers sont des Congolais, ça veut dire que Kinshasa, en acceptant de retourner ces prisonniers à Goma, va consacrer l'existence des deux administrations en RDC. Et c'est ça le début de la balkanisation. Et c'est l'une des cartes sur laquelle joue l'AFCM23. Parce que vous connaissez certainement les débats qu'il y a au sein de l'AFCM23, créer la République du Kivu ou aller vers Kinshasa et prendre le pouvoir d'État. Et c'est un véritable débat aujourd'hui, notamment entre les tenants des Nanga et les tenants des Makenga, qui voudraient juste rester dans leur zone de confort et installer leur propre République. Alors, ça c'est, si les prisonniers sont des Congolais, ça posera ce problème-là. Mais si les prisonniers sont rwandais, eh bien, Kinshasa n'a pas à les retourner au M23. Il va falloir que Kinshasa les retourne à Kigali. Mais en même temps que Kigali puisse aussi expliquer comment est-ce que les Rwandais se sont retrouvés prisonniers en République démocratique du Congo. Et vous comprenez que cette question n'est pas aussi simple que le M23 voulait la présenter. Et tout le monde connaissait tout cela bien à l'avance. Mais ils sont quand même allés à Montreux. Ben, on a vu ce que cela a donné. Donc, pour moi, il est très difficile aujourd'hui d'espérer que Montreux va changer quoi que ce soit, parce que depuis que Montreux a commencé, et même après, on a vu que les affrontements se sont poursuivis sur les théâtres des opérations. Et donc, pour moi, Montreux, finalement, a été un rendez-vous manqué.
Oui, donc après ces négociations, à votre avis, peut-on dire qu'il y a eu des avancées ou c'est plutôt un recul dans les processus de pacification de la RDC?
Non, il n'y a pas eu d'avancée, mais je crois que c'était au lieu d'un recul, c'était plutôt un répit. Le M23 avait besoin de ses réserves, des forces, suite à la pression militaire qu'il recevait de FARDC. Et je crois qu'aujourd'hui, leurs différentes positions ont été approvisionnées en hommes, en munitions et en armes avec la RDF.
Merci. Merci Jean-Romance Mokolo. Les deux parties se sont accordées sur la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Comment vous entrevoyez la mise en œuvre d'un tel mécanisme dans un contexte de méfiance mutuelle?
Bon, en tout cas, Guy Maté, ce n'est pas la première fois que la partie gouvernementale et la rébellion soutenue par les Rwandais arrivent quand même à signer quelque chose sur le papier pour pouvoir mettre fin à cette guerre. c'est au niveau de la mise en œuvre de ce qui est signé qui pose problème. Parlons par exemple de la libération des prisonniers. Ben, vous savez, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui sont vraiment impliqués à un niveau assez élevé à ce qui se passe à l'est du pays. Donc ils sont impliqués dans cette rébellion qui a endeuillé de nombreux Congolais, qui est soutenue par les Rwandais. Et ça va être difficile en tout cas pour le gouvernement congolais de pouvoir libérer les gens qui sont soupçonnés ou les gens qui sont impliqués dans des crimes, des guerres sous le label AFC-M23 avec le soutien du Rwanda. Parce que si on le fait, donc ça va consacrer la prime à la rébellion, la prime aux crimes graves et que ça pourra des mois après, demain par exemple, pousser encore d'autres personnes à faire la même chose, parce que sachant que bon, ceux qui avaient fait ça avant nous ont bénéficié de l'impunité. Donc je crois que c'est le grand problème, le grand dilemme auquel en tout cas est confronté le gouvernement congolais. Parce que vous avez par exemple ceux qui sont aujourd'hui en rébellion au sein de l'AFC-M23, mais beaucoup sont été condamnés par exemple sous le régime Kabila, on les a graciés et après ils ont encore repris la même chose. Moi je crois qu'on doit en tout cas laisser la justice faire son travail, sanctionner ceux qui sont fautifs et que nos partenaires américains par exemple doivent arriver à faire pression sur les Rwandais qui soutiennent l'AFC-M23 afin que l'AFC-M23 n'ait plus de soutien et que n'ayant plus de soutien du Rwanda par exemple, ils vont comme ça déposer les armes et la paix va revenir très facilement. Et deuxièmement, on nous parle de l'aide humanitaire, mais on ne peut pas lier par exemple la question de l'aide humanitaire à la question de la libération des prisonniers, et parmi lesquels des gens qui ont vraiment le sang dans leurs mains. Donc il va falloir qu'on fasse aussi pression sur la AFC-M23 pour que il libère ces espaces-là et qu'il laisse les agents humanitaires puissent travailler librement. Et comme la MONUSCO a mené un nouveau représentant américain, James Swan, mais qu'on puisse imposer aussi la réouverture de l'aéroport international de Goma et qu'il soit mis sous la gestion de la MONUSCO et que la MONUSCO va devoir en tout cas faciliter maintenant l'exploitation de cet aéroport pour des besoins humanitaires. Je ne crois pas que l'AFC-M23 est encore à Goma et que la MONUSCO permettra à ce que l'armée gouvernementale puisse se déployer ou envoyer ses avions sur place là-bas. Donc ça pourrait être que pour des besoins humanitaires qu'on pourra en tout cas utiliser cet aéroport de Goma.
Merci. Merci Jean-Romain Smokolo. Romain Chanson, si les deux parties se sont fixées des lignes rouges et ne sont pas disposées, n'est-ce pas, à lâcher du lest, comment peut-on espérer parvenir à un règlement pacifique de cette crise?
Ah, ça va être compliqué, c'est tout l'enjeu justement de cette discussion et voilà, les diplomates qui y prennent part croient encore à une solution pacifique. C'est pour ça que Montreux n'est pas une grande avancée puisque rien n'a été signé sur le troisième protocole d'accord, mais c'est une petite avancée. On arrive encore à les réunir, à les faire se parler ensemble. Et une preuve peut-être, une preuve qui peut advenir et montrer que ces gens-là sont prêts à faire la paix, ce serait la libération des prisonniers, qui doit intervenir d'ici le 29 avril. Donc on est sur une date butoir quand même très courte, très ambitieuse, trop ambitieuse peut-être. Et un diplomate nous disait que voilà, ce serait une vraie mesure de confiance mutuelle, que les deux parties s'entendent à s'échanger des prisonniers. On parle environ de 300 prisonniers. Donc on est encore là, c'est des petites avancées. On surveillera tous ensemble ici si ces prisonniers sont effectivement libérés. Et s'ils le sont, ça veut dire que les deux parties sont prêts à aller plus loin. Mais aller plus loin, c'est aussi respecter un cessez-le-feu, c'est aussi à la fin peut-être l'AFC-M23 reculer, perdre du territoire, et on est encore très loin de tout ça, quoi. Mais ce sont des gens qui se parlent encore, donc voilà, c'est la diplomatie suit son cours.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Wake Up avec Papa Wemba en featuring avec Koffi Olomide, et on se retrouve juste après.
Wake up, et puis écoute la paix.
C'était Wake Up, c'est le titre de la chanson ainsi que de l'album qui contient cette chanson. Album qui marque la réconciliation entre Papa Wemba et Koffi Olomide, deux de légendes de la musique congolaise moderne. Je rappelle que nous avons dans cette émission Jean-Romain Sebokolo, il est journaliste indépendant. John Gomboy, il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Chanson, il est journaliste au magazine Jeune Afrique et il est chargé de la RDC. La plateforme politique au pouvoir, l'Union Sacrée de la Nation, a invité officiellement les forces vives de la République démocratique du Congo à soumettre leurs propositions concernant une éventuelle réforme constitutionnelle. Dans un communiqué publié lundi 20 avril, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation a fixé l'échéance au 20 mai prochain pour le dépôt des contributions. Cette démarche s'adressait à un large spectre de la société congolaise, incluant les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les universités, ainsi que les juristes, qu'ils soient basés sur le territoire national ou au sein de la diaspora. Selon l'Union Sacrée, cette initiative répond aux multiples manifestations de soutien observées en faveur d'une évolution du texte fondamental du 18 février 2006. Des jours après cette invitation, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, à travers un communiqué, a fait une mise au point dans laquelle il précise que cette initiative n'engage ni l'autorité suprême de cette plateforme, ni la plateforme elle-même. Selon lui, il s'agit d'une initiative qui n'engage que sa propre personne. Jean-Romain Sebokolo, vous avez souhaité justement nous parler du débat sur la réforme constitutionnelle en RDC. On vous écoute.
Oui, il faut rappeler tout simplement à Guy Maté que ce débat avait été lancé de l'État, qui lui-même il a fait un certain nombre de tournées à travers l'arrière-pays pour dire que la constitution en cours de la RDC, en tout cas, pose un certain nombre de problèmes, qu'il y a des dispositions, en tout cas, qui ne sont pas à leur place et qu'il faut les adapter à la réalité, aux réalités actuelles, à l'évolution en tout cas, des réalités au Congo. On a pointé par exemple l'article 217 où il est dit que le Congo est appelé, par exemple, à pouvoir s'associer avec d'autres États, abandonner une partie de sa souveraineté pour s'associer à d'autres États dans le cadre de l'unité africaine. Il y a aussi d'autres dispositions, en tout cas, qui posent problème. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que la constitution actuelle de la RDC, oui, pose de sérieux problèmes. Et j'ai même dit que les législateurs étaient trop ambitieux parce que on a par exemple doté la République d'énormément d'institutions qui appellent en tout cas ce que le pays ait le moyen pour pouvoir les faire fonctionner. On a par exemple éclaté la Cour suprême de justice en plusieurs juridictions et il y a un personnel supplémentaire qui est pris en charge par l'État. On a par exemple doté le pays des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales et même au niveau par exemple communal. On a des conseils communaux, on a des bourgmestres qui doivent être élus. Donc il y a un certain nombre d'institutions qui pèsent en tout cas dans les budgets de l'État et qui même alourdissent même le fonctionnement de l'État congolais. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais la Constitution, nous tous nous reconnaissons que la Constitution elle-même en tout cas prévoit des dispositions des modalités, en tout cas de sa révision. Mais il s'est fait que cette constitution dispose de l'article 220 qui verrouille en tout cas certaines dispositions. Par exemple, le nombre de mandats, les caractères républicains de l'État, et un certain nombre aussi, en tout cas, d'éléments qui ont été verrouillés dans cette constitution. Mais c'est fait que dans les débats qui s'est fait en cours, on ne parle pas de la révision constitutionnelle qui est prévue par la constitution, mais la tendance maintenant, en tout cas, c'est de pouvoir abroger carrément la constitution du 18 février 2006 pour la remplacer par une nouvelle constitution. Cette éventualité-là, ces cas de figure, en tout cas, qui maintenant n'est pas prévue par la constitution. Donc, c'est là où ça pose problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si on abroge une constitution sans que cette constitution n'ait prévu les modalités de son abrogation, donc ça va ressembler, en tout cas, à un coup d'État constitutionnel. Et est-ce que tout le monde va accepter ce coup d'État constitutionnel? C'est tout le monde va accepter qu'on prenne la constitution en cours, qu'on la jette dans la poubelle pour pouvoir concevoir une nouvelle constitution. Donc c'est là où, en tout cas, va se poser un très très grand problème. Et déjà, le décor est planté parce que au niveau de l'opposition, ils sont vent debout pour dire en tout cas non, 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 non à ce projet de changement de constitution. Mais même au niveau de la majorité, en tout cas, bon, en tout cas ouvertement, beaucoup de gens le disent, mais il y a aussi ceux qui, bien que faisant partie de l'Union sacrée de majorité présidentielle, en tout cas qui ne sont pas d'accord à ce que l'on change de constitution, parce que la conséquence, pour changer la constitution, c'est qu'on va remettre les compteurs à zéro et que le président Félix Tshisekedi, par exemple, aura le droit de pouvoir s'offrir un nouveau mandat, pas un troisième, parce qu'on aura remis les compteurs à zéro. Et l'ancien président Kabila, par exemple, s'il n'était pas condamné par la justice, il peut aussi prétendre en tout cas être candidat. Donc le problème n'est pas l'idée qu'on est en train d'avancer pour mettre en place une nouvelle constitution, mais le problème maintenant c'est comment matérialiser cette idée pour arriver à faire comme en Centrafrique, comme au Congo-Brazza, comme au Rwanda, comme dans d'autres pays africains, on a réussi par exemple à pouvoir remettre le compteur à zéro à travers une nouvelle constitution. Moi, je crains parce que ça risque de se faire par un passage en force, ça risque de se faire par sans consensus, parce que quand vous tâtez les poules des opposants, ils sont farouchement opposés à ces projets, parce que pour eux, ces projets ne fait que pour offrir au président Félix Tshisekedi un nouveau mandat.
Merci.
Donc, prolonger sa présence au sommet de l'État et empêcher, par exemple, qu'on ait une alternance en 2028.
Merci.
Voilà là où, en tout cas, le bas blesse, c'est là où ça risque, en tout cas, de barder, là où ça risque, en tout cas, de nous poser énormément de problèmes.
Merci, Romain Chanson. Le problème fondamental qui suscite les débats dans l'opinion congolaise et à travers le monde, est-ce que ce problème est lié au principe d'une réforme constitutionnelle ou c'est plutôt lié au moment où l'on initie cette réforme presque à la veille des prochaines élections?
Vous avez tout dit dans la dernière partie de votre phrase. En effet, c'est un débat légitime de s'intéresser à sa constitution, au fait de pouvoir la réviser, mais plane le soupçon d'une volonté de changement de constitution et de remise à zéro des mandats du président. Et ce soupçon est présent dans la société parce que certaines personnalités, dont des ministres, font ouvertement campagne pour un troisième mandat. Et donc c'est là où ça fausse complètement le débat sur la question de la constitution. Puisqu'on sent qu'il y a une visée politique. Ce matin, il y avait le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbay, qui était sur RFI, et quand on lui demande si la volonté de réviser la Constitution, c'est pour offrir un troisième mandat au président de la République, il répond « pas forcément ». Donc voilà, il laisse la possibilité dans sa réponse que oui, peut-être c'est quand même pour offrir un troisième mandat au président de la République. Donc là, ça y est, on ne parle plus du tout de la Constitution et du bien-être des Congolais, puisque même quand le débat avait été mis sur la table par le président Tshisekedi, où il s'emportait contre l'article 217 sur la souveraineté, est-ce que ça changera la face du monde et du Congo, cet article 217 ? Je ne pense pas. Le soupçon, encore une fois, c'est de vouloir se maintenir au pouvoir.
Merci, John Gombo. Nous allons finir cette émission avec vous, hein, parce que l'abrogation ou les changements de la Constitution n'est pas prévu par la Constitution, mais que apparemment c'est ça même l'intention de la majorité au pouvoir, celle de changer la Constitution. Et à votre avis, quels pourraient être les scénarios possibles si la majorité actuelle tient à changer cette Constitution?
Mais il y a toujours les référendums, je pense. Ça sera une voie tout à fait légale aussi.
Si je peux juste rebondir, oui, il y a aussi la possibilité du référendum, mais c'est un scrutin qui est compliqué à mettre en place, qui coûte cher, le référendum, alors qu'il y a des parties du pays qui sont en guerre, et qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à envisager l'organisation en temps voulu d'élections présidentielles. Donc, un référendum, ajouter ce genre de scrutin avant des élections présidentielles, ça paraît un peu compliqué.
Donne-moi votre réaction.
Oui, mais le problème du moment suspect se posera toujours et toujours en RDC. Au début d'un mandat, on dira, celui qui veut entrer veut s'aménager du temps. À la fin du mandat, on dit, celui qui termine le mandat, il veut s'aménager du temps. Au milieu du mandat, et ce sera pareil. Donc moi, je pense pas que, connaissant les acteurs politiques congolais, il y ait un moment tout à fait qui va réunir tout le monde. Mais aussi l'autre discours qui est caché derrière tout ça, c'est que on est en train de dire au président Tshisekedi, écoute, on te met de côté, tu as déjà suffisamment mangé, ça va être un peu notre tour. Nous allons continuer. Trivialement, c'est un peu ça. Alors, si c'est ça la logique, je ne sais pas si le pays va s'en sortir. Parce qu'à un moment, il va falloir arrêter, parce que cette constitution, à mon sens, comporte les gènes même de son abrogation ou de son changement. Elle est tellement controversée, avec des articles contradictoires en son sein, que cela aurait dû être fait plus tôt. Donc, à un moment, il va falloir qu'on se ressaisisse, qu'on ne voit pas seulement que le positionnement personnel, parce que, en fait, c'est là le plus grand problème.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Romain Chanson, John Longombois et Jean-Romain Semokolo. Merci également à Dieudonné Nyangasa qui était la technique, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Eliana, une autre chanson de Papa Wemba dans l'orchestre Viva la Musica. Une façon pour nous, n'est-ce pas, de continuer à rendre hommage à cette icône de la musique congolaise moderne, et on se retrouve les samedis prochains.
Que no canta y salimos para allá, no pensemos en parte. Oh,